Alexandre Dumas, Black, chapitre 31. Comment les pirates du boulevard des Italiens coupent les amarres et enlèvent les convois. L'idée que le chevalier de la Graverie venait de communiquer à son frère aîné, et qui avait si fort agacé le système nerveux de celui-ci, semblait tout à fait praticable à notre héros. Aussi, malgré l'insuccès des démarches qu'il avait accomplies en moins de 12 heures, paraissait-il tout joyeux en quittant l'hôtel de la rue Saint-Guillaume. L'un refuse d'épouser ce cher petit ange, disait-il. L'autre veut m'empêcher de lui donner le nom qui lui revient. Eh bien, je vais joliment les attraper tous les deux. J'étais, ma foi, bien bon de quitter Chartres, de m'aventurer dans cette maudite malle-poste où j'ai ramassé une courbature, que je devrais, peut-être, si j'étais raisonnable, combattre au plus vite par des frictions. J'étais bien simple de venir me morfondre à la porte de ce vieux fou égoïste, de me risquer à battre le pavé de Paris comme je le fais à cette heure, sans linge, sans vêtements et sans abri, lorsqu'il m'était si facile de donner à la fois une fortune à la pauvre Thérèse et une paternité à son enfant. Je le ferai, oui, de par Dieu. Je le ferai, et monsieur mon frère, qui compte si bien sur ma succession, en aura un pied de nez. Bien entendu que si, pour le monde, je donne à la pauvre enfant le titre d'époux, je ne serai jamais pour elle qu'un père. Le chevalier en était là de son monologue lorsqu'il s'entendit appeler. Il se retourna et aperçut le valet de chambre de son frère qui courait après lui, une petite malle sur l'épaule. « Monsieur le chevalier, monsieur le chevalier !» criait ce dernier en se rapprochant de lui. « Vous oubliez votre valise !»«
Ma valise ?» fit le chevalier s'arrêtant. « Mais sac à papier, je n'avais avec moi aucune valise, que je sache du moins. »
Cependant, monsieur le chevalier, dit le valet de chambre, tout essoufflé, en rejoignant monsieur de la Graverie, c'est bien le cocher qui vous a amené, qui a déposé cette petite malle au coin de la loge. Madame Willem, la concierge, j'en ai certaine. Le chevalier prit la valise des mains du valet de chambre, la tourna et la retourna dans tous les sens, puis, enfin, aperçut sur la partie supérieure une carte coupée en deux, où il lut le nom et l'adresse suivante. Monsieur Gratien d'Elbène, officier de cavalerie, rue du Faubourg Saint-Honoré, numéro 42. Parbleu, s'écria le chevalier, voilà une erreur dont je ne me plaindrai pas, et je suis sûr maintenant de retrouver mon homme quand bon me semblera. Dieudonné remercia le valet de chambre, joignit un louis au remerciement, fit signe à un commissionnaire, lui mit la malle sur l'épaule et continua son chemin en quête d'un hôtel où il put se reposer de ses fatigues. Il trouva cet hôtel rue de Rivoli. Après avoir pris une chambre au premier étage pour n'avoir pas trop haut à monter, après y avoir fait allumer un grand feu auquel il exposa ses reins et ses épaules de manière à les faire presque cuire, après avoir installé Black sur des coussins que, sans aucune pudeur, il prit au canapé de velours d'Utrecq qui ornait la chambre qu'on lui avait donnée, le chevalier se mit au lit. Mais, contre son attente et malgré sa fatigue, il lui fut impossible de s'endormir. Tant que son esprit s'était trouvé échauffé par la discussion qu'il avait eue avec son frère, il avait, comme nous le lui avons entendu dire à lui-même, trouver qu'épouser Thérèse serait la chose la plus simple, la plus naturelle et la plus logique du monde. Mais depuis que le hasard lui avait remis sous les yeux le nom du séducteur de la jeune fille, il s'était pris à réfléchir plus froidement. Et à chaque réflexion nouvelle,
il rencontrait des objections qui révoltaient sa délicatesse, et dont la plus grave était celle-ci. Lui demeurait-il bien prouvé que Thérèse ne fût point son enfant? Et, dans le cas où elle le serait, quelle que fût la réserve de ses relations avec la jeune femme, n'y aurait-il pas quelque chose de profondément immoral dans cette union? Puis, qui lui disait que le baron n'avait pas quelque preuve de cette naissance, preuve que son aîné lui cacherait tant qu'il aurait intérêt à le faire, mais qu'il rendrait public pour se venger, le jour où cette preuve pourrait produire un incestueux scandale? À ces deux objections, qui se dressaient menaçantes au fond de son esprit, et peut-être bien même au fond de sa conscience, le chevalier retomba rapidement dans toutes ses indécisions et dans toutes ses angoisses. Il résolut de ne pas renoncer entièrement à cette idée qui lui semblait une épée de Damoclès, bonne à suspendre au-dessus de la tête de monsieur son aîné. Mais il résolut en même temps, quoi qu'il en coûtât à sa paresse et à son amour du repos, de tout faire, de tout tenter, pour donner un autre dénouement aux amours de la pauvre Thérèse. Agité comme il l'était, Dieudonné se tourna et se retourna tant dans son lit qu'il craignit de se donner une seconde courbature et qu'il prit le parti de se lever. Il s'habilla, dissimula tant bien que mal, sous son gilet boutonné le plus haut possible, la fraîcheur douteuse de sa chemise, et sortit en se disant que le grand air lui donnerait peut-être les idées qui lui faisaient défaut en restant enfermé dans une chambre d'hôtel garnie. Nous l'avons dit, M. de la Gravery était essentiellement flâneur, et malgré les sérieuses préoccupations auxquelles il était en proie, il trouva dans les rues de Paris, qu'il n'avait point parcouru depuis 17 ou 18 ans, trop de prétextes à flânerie pour ne pas être promptement distrait de ses pensées. C'était d'abord les omnibus, invention nouvelle pour M. de la Gravery, qui les considérait avec curiosité. Puis c'étaient les marchands de toute espèce, les magasins de tout genre, les cafés, dont le luxe avait pris depuis quelque temps des proportions qui stupéfiaient le pauvre Dieudonné et qui, à chaque pas, le clouaient sur le trottoir. Black ne semblait pas moins étonné que M. de la Gravery au milieu de cette cohue. Il allait, venait, courait d'un air effaré, bousculé par l'un, arrêté par l'autre, perdant son maître tous les 5 minutes, traversant alors la rue tête haute et nez au vent, entrant dans toutes les portes qu'il trouvait ouvertes, flairant chaque passant, disparaissant, reparaissant et redisparaissant, tant et si bien qu'il commença à donner les plus vives inquiétudes au chevalier. Par la sambleu, dit celui-ci, pour peu que cela dure, je ne puis manquer de perdre mon chien. C'est singulier, comme du jour où il est soumis à la métempsycose, l'homme prend les habitudes du corps que Dieu lui a donné à habiter. Je vous demande un peu qui diable reconnaîtrait le grave capitaine des grenadiers du Ménil dans ce chien qui court comme un fou au lieu de se tenir prudemment à mes côtés. Ces réflexions inspirèrent au chevalier l'idée ingénieuse d'acheter une laisse. Il en passa le porte-mousqueton dans l'anneau du collier de l'épagneul et, traînant l'animal à la remorque, il continua ses pérégrinations à travers les rues de Paris, où, comme un autre Christophe Colomb, il semblait marcher de découvertes en découvertes. Black, déchargé de tout souci, semblait enchanté de cette nouvelle manière de voyager et suivait son maître sans opposer la moindre résistance. Cependant, la soirée approchant sans que M. de la Gravery se fût encore arrêté à aucune résolution, il songea qu'il était temps de satisfaire les besoins de son estomac. Sa première idée avait été de se rendre dans ce but soit chez Véry, soit aux frères provençaux, soit au rocher de Cancale, qui était, comme souvenir gastronomique, resté dans son esprit. Mais il aperçut un restaurant couvert de tant de dorures et de sculptures qu'il pensa que la cuisine de l'établissement devait être en harmonie avec l'élégance extérieure de la maison. Il y entra donc et se fit servir pour lui et Black un dîner qu'il trouva détestable, mais que Black, moins difficile que son maître, mangea, lui, sans sourciller. Le chevalier paya la carte et sortit. Pendant son absence, la carte avait changé de nom. Elle s'appelait l'Addition. Monsieur de la Graverie fit une légère grimace en vérifiant la susdite addition. Il avait mangé, ou plutôt on lui avait servi, un dîner de 39 francs 60 centimes qui, dans son appréciation culinaire, ne valait pas, à part le vin, un petit écu. Nous devons avouer, avec notre franchise bien connue, que, pendant le dîner, monsieur de la Graverie, qui avait jugé à propos de faire au garçon des observations, d'abord sur la façon dont il fermait la porte de son cabinet, sans pouvoir obtenir de lui qu'il la fermât plus doucement, puis des commentaires sur chaque plat que ce même garçon lui servait, le chargeant d'expliquer au chef comme quoi la sauce tomate doit, dans sa préparation, absorber un tiers d'oignon et 2/3 de pommes d'amour, comme quoi le fricando doit être frais dessus et dessous, comme quoi les écrevisses doivent être cuites au vin de Bordeaux, qui ne s'aigrit pas sur le feu comme le vin de Chablis, et servies chaudes dans leur sauce, au lieu d'être servies froides et sèches sur un lit de persil. Nous devons avouer, disons-nous, qu'en exposant ces théories gastronomiques pour le plus grand avantage de ceux qui viendraient après lui, se réconforter, dans le même restaurant, monsieur de la Graverie avait vidé une bouteille de Chambertin grand cru et une demi-bouteille de Château Lafitte retour des Indes. Cet excès n'était point dans ses habitudes. Il sortit donc fort échauffé et reprit sa promenade sur le boulevard en tenant la corde au bout de laquelle marchait Black, corde que, pour plus de sûreté, il avait roulée autour de son poignet. Le chevalier était de fort méchante humeur. Il avait supporté, tant bien que mal, les inconvénients d'une nuit sans sommeil, assaisonnée d'un dialogue plein d'émotions diverses. Le mauvais lit dans lequel il avait essayé de prendre du repos avait ajouté à sa fatigue au lieu de la lui enlever. Cependant, il avait vite oublié le mauvais lit. Les vents coulis de la chambre l'avaient trouvé à peu près indifférent. Mais le dîner qu'il venait de faire l'avait exaspéré, et il se demandait s'il ne serait pas prudent à lui de retourner au plus vite dans sa bonne ville de Chartres, où, si grand que fussent ses ennuis, il avait au moins la ressource d'un dîner passable et la société si douce à son cœur de Thérèse. Puisque le baron, puisque Gratien refusait tous les deux de faire ce qu'il était venu leur demander, dans quel but prolongerait-il désormais son voyage à Paris? Le chevalier traversait la foule qui, entre 7 et 8 heures, encombre le boulevard des Italiens, en s'adressant à lui-même ses réflexions, et il les accompagnait de gestes qui lui attirèrent plus d'une imprécation de la part des gens que, dans sa distraction, il heurtait en passant, imprécation auquel le digne chevalier ne prenait pas même la peine de répondre. Enfin, l'affluence devenant de plus en plus considérable, monsieur de la Graverie fut pris d'une de ces colères assez habituelles aux provinciaux lorsqu'ils ont à fendre les flots pressés de la badauderie parisienne. Et, Tournant les talons à toute cette cohue, il prit son parti, décida qu'il regagnerait Chartres et chercha à regagner d'abord son hôtel, qui lui semblait une étape indispensable de son voyage.
« Oui, grommelait-il entre ses dents, je te quitte à jamais, ville maudite et gangrenée. Je vais m'enfermer dans ma maison, près de ma pauvre Thérèse qui sera ma fille adoptive, puisque je ne puis arriver ni à en faire ma femme, ni à en faire ma fille véritable, et je jure que, dussé-je manger la moitié de mon bien en procès, je lui laisserai, malgré mon frère, assez de fortune pour vivre à l'aise lorsque je n'y serai plus. Sois tranquille, va, Duménil. »
Jusque-là, le chevalier avait gesticulé de la main gauche. La droite, qui tenait la laisse de Black, était restée plongée dans la poche de son pantalon. Mais cette fois, emportée par la chaleur de son mouvement oratoire, ce fut la main droite qu'il éleva en l'air, comme pour prendre le ciel à témoin du serment qu'il faisait, en même temps qu'à lui-même et à son ami. À sa grande surprise, il s'aperçut alors qu'il n'avait plus rien au bout de la tresse de cuir qui s'agitait à son poignet. Le chevalier se retourna. Black n'était ni à ses côtés, ni derrière lui. Il s'approcha d'un bec de gaz, regarda la laisse avec attention. Elle avait été fort proprement coupée d'un instrument tranchant. On lui avait volé son chien. Le premier mouvement du chevalier fut de courir et d'appeler Black. Mais où courir? De quel côté appeler? Puis, en appelant, comment faire dominer à sa voix le bruit assourdissant des voitures et le sourd murmure de cette multitude? Monsieur de la Graverie se mit à interroger les passants. Les uns répondirent à ces questions faites d'une voix émue et tout entrecoupée en haussant les épaules. D'autres lui répondirent qu'il ne savait pas. Un homme en blouse lui assura avoir vu un individu conduisant un chien à l'aide d'un mouchoir passé dans le collier. L'individu entraînait le chien du côté de la rue Vivienne. Le chien se défendait, et ce n'était qu'à grand-peine que ce personnage s'en faisait suivre en le tirant après lui. Le chien, au reste, ressemblait trait pour trait au signalement que le chevalier donnait de son épagneul. « Vite, à la rue Vivienne, » dit le chevalier en se dirigeant du côté indiqué. « Oh, il a de l'avance sur vous, et je doute que vous le rattrapiez, mon brave monsieur. » Si, comme je n'en doute pas, votre animal a été dérobé par un de ces gaillards qui font commerce et de les voler et de les revendre, l'objet est déjà en lieu de sûreté. Mais où le rejoindre? Comment le retrouver?
Il faut d'abord faire votre déclaration au commissaire.
Bien, après.
Le faire afficher, promettre une récompense.
Tout ce que l'on voudra pourvu que je retrouve mon chien.
« Allons, voyons, » fit l'homme qui s'attendrissait à la douleur du chevalier. « Il ne faut pas vous désoler comme cela. Vous la retrouverez, votre bête, et si ce n'est pas la même, c'en sera une autre. Moi, je vous promets une chose, c'est que, pour peu que la récompense soit gentille, demain matin, avant votre déjeuner, deux chiens semblables aux vôtres auront déjà sonné à votre porte. »
« Mais c'est mon chien qu'il me faut, et pas un autre, » s'écria le chevalier. « Vous ne savez pas, mon brave homme, combien je tiens à mon chien. Ah, si je le perdais une seconde fois, mon pauvre Duménil, je crois que j'en mourrais. »
« Duménil? Votre chien s'appelle Duménil? En voilà un drôle de nom de chien, on dirait un nom d'homme.
Voyons, rassurez-vous. Paris est grand, mais j'en connais les malices. Avez-vous confiance en moi?
Oui, mon ami, oui, s'écria le chevalier.
Eh bien, je m'en charge, moi, de votre caniche.
C'est aujourd'hui vendredi.
Eh bien, dimanche, avant midi, je me charge de l'avoir réintégrée au bout de votre ficelle, monsieur Duménil. Seulement, quand vous vous promènerez encore avec lui dans Paris, mettez-lui une chaîne. C'est plus lourd, mais c'est plus sûr.
Si vous faites cela, si par vous je retrouve Black...
Qu'est-ce que c'est que cela, Black?
Mais c'est mon chien.
Voyons, faudrait s'entendre. Comment s'appelle-t-il, votre chien?
Est-ce Duménil? Est-ce Black?
C'est Black, mon ami, c'est Black. Seulement pour moi, mais pour moi seul, il est tantôt Duménil et tantôt Black.
Bon, je comprends. Il a un nom de famille et un nom de baptême.
Eh bien, reprit le chevalier, tenant à compléter son offre, si vous me le retrouvez, je vous donnerai tout ce que vous me demanderez, mon brave homme.
500 francs, trouvez-vous que ce soit assez?
Allons, allons, je ne suis pas un flibustier du genre de ceux qui vous ont volé votre chien, mon cher monsieur. Vous me payerez mon temps et mes peines, car, tandis que je courrai après votre chien et que mes jambes travailleront, mes bras resteront à ne rien faire, et ce sont mes bras qui me font vivre.
Le prix de mon temps, c'est tout ce que je veux. Je vous oblige pour vous obliger.
Ça m'a fait du mal à moi de vous voir tant de chagrin pour un chien perdu. Cela prouve un bon cœur, et j'aime les bons cœurs, moi.
Ainsi, ne parions plus de récompense. Nous compterons quand l'animal sera retrouvé.
Mais vous allez avoir besoin, mon ami, de prendre des voitures, de payer l'afficheur, l'imprimeur, le marchand de papier. Attendez que je vous fasse au moins une avance.
L'afficheur, l'imprimeur, le marchand de papier, ah bien oui, je vous disais cela tout à l'heure, parce que nous n'étions pas encore des connaissances. Mais tout cela, c'est des attrape-nigauds, et nous nous en passerons.
Mais cependant, mon ami,
laissez faire Pierre Marteau, mon vieux brave, laissez-le faire, c'est lui qui vous le dit. Ne donnons l'éveil à personne. Soyons muets comme le barbillon sous la pierre. Et je vous réitère que dimanche, pas plus tard que dimanche, vous aurez votre épagneul.
Oh, mon Dieu, soupira le chevalier, dimanche, c'est bien tard, pourvu qu'on lui donne à manger d'ici là.
Ah, dame, je ne vous dis pas qu'il aura, où il est, une cuisine aussi grasse que dans votre hôtel. Mais un chien, c'est un chien au bout du compte, et il y a tant de gens qui mangent des croûtes qu'il ne faut pas trop plaindre un quadrupède qui a des pommes de terre.
Quand nous reverrons-nous, mon brave homme?
Demain, car cette nuit je vais battre tous les cabarets où se rassemblent les écumeurs de boulevard. Peut-être, par ce moyen, aurai-je des nouvelles de votre bête avant dimanche.
Vous, mon cher monsieur, vous m'avez l'air fatigué. Vous allez vous coucher et vous tenir bien tranquille. Où demeurez-vous?
À l'hôtel de Londres, rue de Rivoli.
Rue de Rivoli? On connaît l'endroit, quoiqu'on ne le hante guère. Voulez-vous que je vous reconduise? Car vous m'avez l'air de chercher votre chemin comme une bécasse au milieu du brouillard. Voyons, venez par ici. »
Le chevalier, obéissant comme un enfant, suivit Pierre Marteau et, chemin faisant, lui renouvela 10 fois ses recommandations à l'endroit de Black. Arrivé à la porte de l'hôtel, il réussit à lui faire accepter une pièce de 20 francs pour faciliter les recherches. Enfin, il lui donna rendez-vous pour le lendemain et rentra tout triste dans sa chambre. Il s'assit sur les coussins où Black avait dormi la nuit précédente. Et bien qu'il n'y eût pas de feu dans la cheminée, il resta là pendant plus d'une heure, abîmé dans ses réflexions. Ses réflexions étaient du genre sombre, et plus le chevalier s'y enfonçait, plus elle devenait lugubre. Depuis que Dieudonné s'était attaché à quelque chose, il avait marché de chagrin en chagrin,
de déception en déception. Il n'osait récapituler toutes les méchantes aventures que lui avait déjà valu Black. Et lorsqu'il songeait à la jeune maîtresse du pauvre chien, l'addition de ses douleurs présentait un total bien autrement formidable. Et cependant, chose étrange, ses angoisses, il les aimait. Ses afflictions, elles lui étaient douces. Ses peines qu'il endurait pour les deux êtres qu'il aimait, elles lui étaient si chères que tout en les maudissant, il ne lui vint pas à l'idée de regretter le temps où, libre de soucis et d'appréhensions d'aucune sorte, il vivait, tout entier absorbé par le travail de la digestion ou par l'étude de la science de Carême. Il se coucha enfin, soupira en regardant cette chambre qui lui semblait 10 fois plus vide et plus triste que la veille, et s'endormit en rêvant qu'il apercevait, comme il l'avait vu quelques heures auparavant, la silhouette noire de son épagneul se détachant devant les lueurs embrasées du foyer. Hélas, c'était un rêve. Il n'y avait plus dans la chambre ni foyer, ni épagneul. Son esprit était si ébranlé, son corps si fatigué par les secousses qu'il avait subies depuis 24 heures, qu'il finit par s'endormir profondément. Il pouvait être 10 heures du matin lorsqu'un bruit de souliers ferrés le réveilla. Il ouvrit les yeux et aperçut, debout au pied de son lit, l'homme qui, la veille au soir, lui avait promis de lui faire retrouver Black. Par malheur, Pierre Marteau ne lui apportait encore que des espérances, et des espérances bien creuses. Il avait inutilement exploré tout le quartier Saint-Marceau, qu'habitent ordinairement les gens qui font le commerce des chiens de hasard. Il n'avait rien découvert. Cependant, il était loin de se rebuter, et sans vouloir s'expliquer, il continuait de promettre au chevalier que le lendemain, dimanche, il le remettrait en possession de son épagneul. Le chevalier le congédia. Puis il se demanda, avec un soupir, comment il allait employer sa journée. Il lui était impossible de songer à retourner à Chartres avant d'avoir retrouvé son chien. Il écrivit à Thérèse, qui devait être fort inquiète de lui, de prendre le lendemain dimanche la diligence ou la malle-poste et de le venir rejoindre, hôtel de Londres, rue de Rivoli, puis à son notaire de lui envoyer de l'argent. Enfin, comme il ne pouvait raisonnablement passer sa journée entière dans sa chambre, il s'habilla et se décida à sortir pour tuer le temps en flânerie semblable à celle de la veille. Au moment où il prenait son chapeau qu'il avait déposé sur une chaise, il aperçut dans un coin la petite valise qu'il avait emportée par mégarde en quittant l'hôtel des postes. « Tiens, se dit-il, voici l'emploi de ma journée, tout trouvé. Je vais rendre cette malle à son propriétaire. Et, qui sait, son ami Louville n'étant plus auprès de lui, peut-être me sera-t-il donné de lui faire comprendre l'indignité de sa conduite. » Sur ce, Monsieur de la Graverie se fit approcher un fiacre, y monta avec la valise et dit au cocher : « Rue du Faubourg Saint-Honoré, numéro 42. »